L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan. Stratégie de pêche durable des pêcheurs basco-landais. Nous retrouvons Nicolas Susperegui, scientifique chargé de mission au comité des pêches 64 et 40, pour la seconde et dernière partie de son intervention. Dans la première partie, il évoquait la filière pêche locale et les actions réglementaires. Aujourd'hui, il va nous parler de la valorisation des produits et de la responsabilité environnementale. Nicolas Susperegui.
Donc ça, c'était tous les aspects réglementaires. Maintenant, c'est tout ce qui est suivi la ressource, partenariat scientifique avec les pêcheurs. Donc il y a une obligation de déclaration des captures depuis 1990, notamment pour les navires de moins de 10 mètres, qui étaient les moins bien suivis. C'est une condition d'attribution des licences. Vous n'êtes pas à jour de vos déclarations, vous n'avez pas de licence. Voilà, c'est la règle du jeu qui est posée. Et donc sur ces documents, donc il reste encore des documents papier, mais de plus en plus ça s'informatise tout ça et c'est fait en direct à bord du navire. Il va y avoir évidemment le nom du navire, mais la date de capture, la zone géographique, le temps de pêche, la durée d'immersion de l'engin de pêche, l'engin de pêche lui-même, est-ce que c'est un filet, une ligne, etc. Ses caractéristiques, quelle est la maille, la longueur, le nombre d'hameçons, les espèces capturées, les quantités débarquées en kilos, et aussi les captures rejetées, pour un volume qui est supérieur à 50 kilos. Il y a une obligation de peser. Tout pêcheur qui rentre à terre doit peser tout son poisson. Voilà. Donc en général, ça se fait au débarquement. Sur certaines espèces qui sont très contrôlées, comme le thon rouge, vous avez une photo à droite, ça peut se faire à bord du bateau. Ça peut se faire à bord du bateau, pourquoi ? Parce que sur le thon rouge, par exemple, il y a une tolérance de 10% d'erreur. À bord, vous avez un contrôle, il faut que vous sachiez dire aux gendarmes qui vous contrôlent, j'ai tant de tonnes ou tant de kilos de thon rouge dans les cales. Ça, c'est à l'estimation ou à la pesée sur le bateau. Où je vous rappelle que sur un bateau, on n'est jamais très fixe. Et donc, s'il y a 10% d'erreurs, que ce soit en plus ou en moins, parce que là, les gendarmes les suivent à terre et on débarque et on pèse tous les poissons un par un. S'il y a 10% d'erreurs en plus ou en moins, c'est une amende. Et c'est une amende, en général, salée. Donc, voilà, c'est très, très suivi et très, très réglementé. Pour certains poissons, comme le saumon, ou le thon rouge, on va même jusqu'à l'identification individuelle. C'est-à-dire qu'on leur appose des bagues. Donc sur les thons rouges, c'est plutôt sur la queue, c'est des bagues jaunes avec un numéro unique. Et sur les saumons, pareil. Normalement, demain, vous êtes dans un restaurant, vous demandez, il y a du thon rouge à table, vous êtes en droit de demander l'étiquette et qui vous donnera toutes les informations sur la pâte, le nom du bateau, le lieu de pêche, etc., etc. Ensuite, tout ce qui est suivi des débarquements ancriers, donc vous avez vu tout à l'heure sur de l'évolution interannuelle, mais on peut décliner ça par type d'espèce sur la gauche, par type de flottille, c'est-à-dire qu'on va avoir des bolincheurs de plus de 10 mètres, des filayeurs inférieurs à 10 mètres, des filayeurs de plus de 20 mètres, etc. Et puis par acheteur aussi. Par acheteur. Donc nous, ça nous permet de voir l'évolution et de suivre au jour le jour le marché aussi de la filière derrière. Autre type d'exemple, là vous avez les débarquements d'algues rouges, le ramassage des algues rouges. Donc là c'est pour la saison 2021-2022. Donc vous avez en rouge ce qu'on appelle un indice tempête, c'est-à-dire que plus on a des pics rouges et plus on est sur des situations de tempête caractérisées par des fortes houles et du vent. Et plus, en général, ça va nous décrocher l'algue. Parce que c'est interdit de l'arracher ou de la pomper. Donc c'est la nature qui fait son œuvre et les tempêtes vont venir décrocher cette algue. Et derrière, en noir, vous avez les pics de capture. Et on se rend compte qu'en effet, les pics de capture, ils surviennent soit pendant, soit juste après un épisode de tempête. Donc ça, c'est un suivi journalier. Et puis à droite, vous avez le suivi depuis la période, la première campagne en 95-96. Autre type d'exemple, la pêche de la civelle. Là aussi, c'est journalier. Donc, c'est la campagne de novembre 2021 à mars 2022. D'accord? Ici, j'ai mis en noir et en blanc les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et tout pêcheur vous dira, la civelle, on la pêche à la lune noire. Bon, quand on voit les déclarations de capture et qu'on voit les pics de déclarations journalières et les lunes noires, en effet, dans les 2 ou 3 jours qui suivent une lune noire, en général, la civelle est accessible à la pêche. Ensuite, on a le suivi déclaration des captures. Donc là, c'est un suivi qu'on a mis en place il y a plus de 10 ans avec des partenaires scientifiques comme Capena et le comité régional des pêches aussi. Donc là, c'est à l'échelle carrément de l'Aquitaine. Et on peut avoir une vision, encore une fois, par engin, par zone, par espèce et à l'échelle journalière. Donc à partir du moment où on a la donnée journalière, on peut la décliner à la semaine, au mois, à l'année, sans problème. Typiquement, voilà le genre de carte qu'on peut ressortir sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec des camemberts de couleurs et chaque couleur représentant un groupe d'espèces. On va rentrer par exemple dans le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon, on va être plutôt sur du jaune, c'est plutôt des poissons plats. Le bassin d'Arcachon, c'est essentiellement, principalement de la sole et aussi de la sèche. Nous, le bleu marine, ça va être plutôt justement le merlu. Le vert, plutôt sur les côtes de la Gironde, là-bas, ça va être essentiellement le maigre. Grosse pêche de maigre du côté de la Gironde. Donc voilà, ça nous permet de suivre ça. Ensuite, on a des partenariats avec les organismes tels que l'IFREMER, des organismes nationaux, qui eux donc travaillent à leurs avis et à l'estimation des TAC. Donc là, il y a des enquêtes socio-économiques qui sont faites, il y a des échantillonnages encriers, il y a des échantillonnages et des observateurs en mer qui embarquent carrément pour voir ce qui se passe. Et puis, il y a aussi des campagnes scientifiques, plutôt sur les juvéniles pour estimer le nombre d'œufs, les larves, etc., etc. Donc ça, on travaille tous ensemble. On a d'autres partenariats sur les migrateurs, par exemple, dans l'Adour. Donc, essentiellement, sur le saumon, la truite de mer et la loze. Donc, on relève la taille, le poids, le sexe. La scalimétrie, c'est en fait l'analyse des écailles. Donc, vous avez un exemple d'écailles vues au microscope ici. C'est le même principe que les arbres. C'est-à-dire que chaque strie correspond à une période de croissance. En général, les stries larges, c'est les stries d'été et de printemps où la nourriture est abondante. Et puis les stries serrées, c'est plutôt les hivers où on se serre les coudes pour passer l'hiver. Et donc, c'est ça qui va permettre, par exemple, d'avoir des relations entre la taille et le poids, puisque si on mesure, si on pèse, si on détermine le sexe, etc., ça nous permet d'avoir des relations de taille-poids derrière. Un autre exemple, début des années 2010, on a des pêcheurs qui sont venus nous voir en nous disant bah, « Tiens, nous, on aimerait bien, il y a des oursins sur la côte basque, et on aimerait bien exploiter les oursins, on aimerait bien ramasser les oursins. » Donc on a dit « Oui, pourquoi pas, par contre, on ne va pas faire n'importe quoi. Avant de démarrer quoi que ce soit, on va demander à l'IFREMER local de nous faire une estimation de stock. Et en fonction de cette estimation de stock, on va pouvoir définir finalement le nombre de licences possibles, la période de pêche possible. » Toujours pareil, hein, période de reproduction, on les laisse tranquilles. Et de pouvoir derrière nous pouvoir définir les modalités de gestion de cette espèce-là. Donc on a fait appel à l'IFREMER qui a suivi les stades adultes, les stades larvaires, qui a fait des plongées, des relevés de densité, etc. Et qui nous a produit en fait des cartes de densité. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on est sur la corniche, hein, d'Andaille à Saint-Jean. Et puis ici, on est de Saint-Jean à Guétary. Donc plus c'est foncé, plus on va avoir des densités d'oursins importantes, et plus c'est clair, et plus en fait avec la profondeur, on va rencontrer moins d'oursins. Et donc ça nous a permis de mettre en place 2 licences de pêche, et des modalités de pêche, non pas toute l'année, mais de septembre à janvier. Autre type de travaux qui sont faits avec les pêcheurs, c'est des marquages de poissons. Donc là, c'est un programme national sur le bar, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, à un moment donné, une inquiétude sur le bar, et aussi des questions sur les stocks de bar. Et la question qui se posait, c'était est-ce que les stocks bretons, nord-golfe de Gascogne, et les stocks sud sont les mêmes? On a fait des travaux, on n'a toujours pas la réponse, parce que c'est compliqué. Mais pour ça, donc il y avait tout un tas de choses à mettre en place, donc les relevés classiques, hein, de taille, de poids, etc. Mais il y avait aussi l'injection de sondes, pour voir un peu leur parcours. Et donc là, c'est très classique, hein, c'est relation taille-poids, mais là où ça devient intéressant, c'est que là, on voit des parcours de migration. Et donc, on fait, par exemple, la même chose sur le thon rouge. Et on se rend compte qu'en fait, un individu peut en quelques mois, faire quelques centaines, voire milliers de kilomètres dans le golfe de Gascogne. Même principe pour la langouste rouge. Donc, chaque langouste rouge est baguée. Et donc là, sur ce programme-là, chaque langouste rouge était baguée et remise à l'eau. Et donc, l'idée, c'est que quand elle est recapturée, vu qu'on sait à quel endroit, à quelle heure, avec quel engin, quelle taille elle faisait quand elle a été remise à l'eau, si on la rattrape un mois, deux mois, six mois, un an, on récupère d'informations sur des taux de croissance et des choses comme ça. Donc tout ça, ça nous aide en fait à mieux gérer la ressource. Et puis localement, il y a la problématique du liga, qui est une problématique assez spécifique. Et donc là, sans les pêcheurs, on n'aurait pas pu avancer. Début des années 2010, vous avez un exemple de carnet qui gentiment il me remplissait, qui nous permettait carrément d'avoir date par date leur position et leur observation ou pas de liga. Et tout ça, ça a permis justement de pouvoir débroussailler, de voir que on avait deux périodes de production, un au printemps et à l'automne. Et puis quand on regarde les points noirs, c'est les points d'observation, que c'était une problématique de la côte basque, beaucoup plus que la côte landaise. Dans les autres pistes de stratégie durable, on ne met pas les œufs dans les mêmes paniers, donc on essaie aussi de diversifier l'activité, que tout ne repose pas sur la ressource non plus. Donc dans la diversification d'activité, il y a eu le pescatourisme. Alors ce sera évidemment jamais le revenu principal d'un pêcheur et c'est pas le but. Mais l'idée, c'est de pouvoir embarquer des gens à bord et leur faire participer à une marée. Je crois que dans les médias, les grands médias nationaux, quand on parle de la pêche, en général, c'est jamais très positif et c'est jamais très valorisant pour la pêche. Et il n'y a rien de mieux que d'être sur un bateau et de voir ce qui se passe. Voilà. Et là, on a tout un tas de préjugés qui peuvent sauter en moins de deux. Et en général, les pêcheurs sont contents et heureux de partager. C'est une passion, hein, c'est pas un métier pour eux, c'est une passion. Une passion dure par moment. Mais en tout cas, ils sont heureux de partager leur bureau, comme ils disent, et qu'on s'intéresse à leur travail. Donc ça, c'est une possibilité. Le ramassage des algues rouges, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'ai pas insisté sur la réglementation, hein, mais l'arrachage et le pompage sont interdits. Dans les mesures techniques de l'engin, donc c'est un engin tracté qui doit mesurer au maximum 4,50 m sur 1,50 m, et avec une maille de filet derrière, hein, parce que vous avez le cadre ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, et on le voit à partir de septembre, vous allez le voir sur le quai, hein. Une maille de 90 mm, pourquoi ? Parce que ces algues-là, quand elles vont se déposer dans des cuvettes sableuses, elles peuvent abriter parfois des petits alevins ou des petites crevettes, etc. Et donc quand on tire avec une maille de 90 mm, eux, ils peuvent s'échapper, quoi. Le but du jeu, c'est d'attraper l'algue, c'est pas d'attraper ce qu'il y a dedans. Et puis, donc un nombre de licences qui est gelé, une période de pêche qui est définie entre le 15 septembre et le 31 mai, et qui, dans les faits, est très dépendante du marché espagnol, pour le coup, et qui commence réellement au 15 septembre, mais peut très bien s'arrêter en janvier, février, mars maximum. Voilà. Dans les activités complémentaires, on a un bateau, le Grand Vert, l'Itsas Bellara, qui lui travaille avec le syndicat mixte Costa Garbia et travaille en fait à l'interception des macro-déchets en mer. Donc c'est tout ce qui est bois, plastique, etc. Tout ce qui est pas tout ce qui ressort de l'activité humaine et qui est pas très reluisant. Donc lui là, il travaille d'avril à septembre. Bien souvent, il est renseigné par ses collègues qui sont déjà en mer quand il sort et qui lui disent hop, j'ai repéré une bande à tel endroit. Ça optimise le travail, c'est très bien. Et par exemple, en 2019, c'est les derniers chiffres que j'ai eus de l'agglomération, mais en 2019, on avait 21 tonnes ramassées. Et on se rend compte qu'en fait, la variation de déchets d'une année sur l'autre, elle est très liée à la variation de débit de la Dour, ou de la Nivelle, ou de la Bidassoa. Ce qui veut bien dire que la pollution, elle arrive de la terre. Et qu'en général, on estime en tout cas que la pollution que l'on voit en surface, c'est seulement 30%, il y a 70% au fond. Voilà. Donc on a participé aussi avec des collègues de l'ASTI, donc c'est l'équivalent de l'Ifremer côté Goualdé, côté basque espagnol, et un programme européen pour justement essayer d'optimiser ça, et puis de réduire aussi les déchets à la source. Donc voilà pour la diversification d'activités. Un autre axe de travail, c'est tout ce qui est démarche qualité, circuit court, communication, partenariat, tout ce qui touche à la valorisation des produits. On est persuadé que pêcher moins, mais pêcher mieux et mieux valoriser son produit, c'est mieux que de pêcher n'importe quoi, n'importe comment, et finalement pas bien valoriser son produit. Donc dans les choses qui ont été faites, dans les démarches qualité qui ont été mises en place, il y a plus de 10 ans maintenant, c'était la rédaction de guides de bonnes pratiques, des fiches techniques par métier, par type de métier, voire par espèce, sur comment abattre, trier, éviscérer, laver, conditionner, glacer, stocker, etc., de façon à ce que le produit qui sorte de l'eau il soit le plus respecté possible, qu'il soit le mieux conservé à bord et qu'il soit du coup le plus joli possible au débarquement et du coup le plus valorisé possible aussi. Des travaux aussi encore avec Capena, avec une personne dédiée à la qualité et à l'optimisation des processus de qualité en criée de Saint-Jean-de-Luz. Donc là, l'objectif, c'est d'améliorer le cri, la qualification des produits, d'assurer une veille de réglementation sanitaire, parce que c'est des choses qui évoluent tous les jours. Il y a 10 ans, je vous aurais dit, demain, vous voulez visiter la criée, il n'y a pas de problème, on y va, on se donne rendez-vous. Aujourd'hui, c'est plus possible, pour des raisons sanitaires. On peut pas faire rentrer des groupes. C'est très compliqué. Donc c'est accompagner les pêcheurs, hein, toujours dans les bonnes pratiques, de maximiser la qualité des produits, de faciliter le travail des acheteurs. On a des acheteurs, mais on a des acheteurs qui sont aussi à distance maintenant. La pêche a suivi l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent en criée de Saint-Jean-de-Luz le matin qui physiquement ne sont pas là. Donc eux, il faut qu'ils achètent les yeux fermés, qu'ils aient confiance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un produit de qualité derrière. Et puis la mise en place de démarches de labellisation des produits débarqués. Donc le plus connu, c'est le merlu de ligne, mais d'une façon plus large, j'ai envie de dire, c'est les poissons de ligne. Qui répond à un cahier des charges assez strict. Donc l'engin, c'est évidemment de la ligne ou de la palangre. Un beau merlu ou un beau bar pêché au filet, qui va être très beau, hein, ne sera pas dans cette labellisation de produit parce que c'est pas le bon engin. La zone, c'est la côte basque sud et le sud des Landes, pardon, dont le gouffre de Cabreton. Les durées, c'est des marées à la journée. Et il faut même que le poisson soit débarqué au maximum 12 heures après leur capture. Il faut que le poisson soit remonté vivant, qu'il soit éviscéré tout de suite, rangé avec soin dans des bacs réfrigérés à bord, et qu'il n'ait pas de blessures extérieures. Ensuite, dans les démarches qualité, on s'est aussi adapté à la demande des consommateurs, même si c'est compliqué pour les pêcheurs, parce que c'est un autre métier, et qui démarre en général très tôt le matin. Enfin, ils savent quand ils partent, ils ne savent pas quand ils rentrent. Et que du coup la vente du poisson c'est un autre métier et que rien qu'avec leur métier ils sont déjà assez pris. Mais cela dit, ça se développe quand même de plus en plus, les circuits courts, donc la vente directe à la table. Vous avez des ventes, vous avez trois pêcheurs qui vendent en direct à Cibourg. Il y a 5 tables sur le bord de la Dour à Bayonne, et puis les 19 bateaux de Cabreton, ils ont 19 tables de vente directement sur le port de Cabreton. Donc là aussi c'est aussi un bon moyen de communiquer, d'expliquer aux gens le métier. Et voilà. La vente en AMAP, donc les associations de maintien d'une agriculture paysanne. Alors là, il a fallu avoir quelques adaptations parce que contrairement à quelqu'un qui produit des légumes ou des fruits, qui peut approvisionner une certaine quantité à un certain rythme, la pêche, c'est pile ou face, hein, par moment. On peut avoir un gros coup et puis pendant 10 jours, pas avoir un poisson. Donc, et la question de l'approvisionnement régulier, il est plus compliqué sur la pêche. Mais cela dit, ça se fait avec certaines associations. Et puis des ventes en magasin de producteurs aussi. J'avais dit que j'étais bavard. Hein. L'autre point, c'est tout ce qui est communication. Donc on a travaillé sur des revues gastronomiques, notamment Gourmet de France, avec des tests produits. Donc des tests culinaires, des publications d'articles, de sensibilisation, de vulgarisation aussi, parce que c'est compliqué finalement la pêche, des productions de films promotionnels, production de supports de communication, des plaquettes, des livres de recettes, des femmes de marins. Je vous invite à acheter ce petit livret là qui coûte 3 euros et où vous aurez tous les secrets de cuisine d'Amachi avec des très bonnes recettes. tout ce qui est participation à des salons et à des foires. On va régulièrement au salon d'agriculture, enfin on est invité chaque année au salon de l'agriculture à Paris, à la foire internationale de Bordeaux, au festival basque à Bordeaux. Toujours un moyen de faire connaître les produits. Et puis aussi, on essaie de faire aussi évoluer les consommateurs. Parce que la pêche durable, c'est aussi de pouvoir permettre aux pêcheurs de vivre correctement du poisson qui vit devant chez lui. Et vous n'êtes pas sans savoir, surtout ces jours-ci, qu'on est un peu confronté à un changement climatique. Et qui dit changement climatique, dit migration de certaines espèces vers le nord. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces qui historiquement étaient présentes et qu'on va de moins en moins voir. Maquereau, par exemple, espèce d'eau froide. Et puis, des espèces d'eau chaude qu'on va commencer à voir de plus en plus. Et donc, il y a des efforts à faire aussi au niveau du consommateur. Et donc, il y a des espèces qui sont régulièrement pêchées localement, mais qui finalement sont très, très mal valorisées et très peu connues du grand public. J'en donnais, la bonite, le maquereau, le taco, le merlan, c'est des bons poissons, mais les gens, ils veulent du bar, du merlu, de la sole. Voilà. Et aider le pêcheur local, c'est aussi l'aider à commercialiser correctement les poissons qu'il pêche. Après, il y a des poissons avec lesquels on a un peu plus de mal, parce que gustativement, on a tout essayé avec le lycée hôtelier de transformer en terrine, en truc, et bon, il y a certains, je pense qu'on va abandonner. Ensuite, on a tout ce qui est pilotage. Alors là, on va rentrer dans la dernière partie, tout ce qui est responsabilité environnementale, tout ce qui est fait, en fait, par les pêcheurs. C'est des sentinelles, ils sont tous les jours sur l'eau. C'est les premiers... les premiers confrontés en fait au dysfonctionnement des écosystèmes qu'ils exploitent. Hein. Donc nous au niveau du comité des pêches, on a piloté des projets et notamment un fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dont on avait 5 objectifs opérationnels. Et dans ces 5 objectifs opérationnels, on avait conforté une pêche durable. Et donc vous verrez que dans conforter une pêche durable, on a développé des projets que je vais vous présenter après, qui ont vocation à essayer aussi de limiter sa propre empreinte et de limiter son impact sur le milieu. En ce qui me concerne, moi, à mi-temps, il y a une zone Natura 2000 en mer, je ne sais pas si vous le saviez, sur la côte basque, donc entre Hendaye et Saint-Jean et Saint-Jean et Biarritz. Et donc moi, je m'occupe de cette zone-là avec des thématiques comme les hermelles, c'est un petit habitat, on dirait c'est des petits vers marins, les pollutions marines, les réseaux sentinelles, des macro-déchets, etc., etc. Quand je vous disais sentinelles de la mer, donc c'est leur présence quotidienne qui nous vaut ça, c'est des observateurs privilégiés, parfois malheureusement pas privilégiés, mais c'est eux qui ont par exemple alerté sur du liga, sur des marées rouges, sur par la fois des proliférations de méduses, sur des mortalités de poissons, etc. Ils sont... très, très sensibles en fait au bon état de leur milieu. Ils sont aussi parfois confrontés, notamment dans le gouffre de Cabreton, à la remontée d'espèces inconnues ou qu'on croyait disparues de la face de la Terre. Et donc on a l'Ifremer, avec les travaux de l'Ifremer, on fait remonter à chaque fois, et donc il y a un congélateur, un musée des horreurs ou musée des inconnus en tout cas. Et ça permet justement de pouvoir réactualiser l'état des espèces et de dire tiens, celle-là elle n'est pas disparue, elle est bien présente, elle est sûrement dans des zones trop profondes pour être accessible, mais voilà le genre d'échange qu'il peut y avoir. Et puis bon, là je vais pas m'étaler parce qu'il y a Mickaël et il est une de tout ça, mais tout ce qui était lutte contre les macro-déchets, je vous ai parlé d'Itsas Bellara, mais l'artisan de tout ça depuis le milieu des années 90 avec Itsas Gasteria, ça a commencé par ramener les déchets de bord, donc issus de la vie à bord, à terre, afin de préserver leur patrimoine, parce que avant les vieux réflexes c'était un peu de, je pense pendant des années on a pensé que la poubelle, la mer était une poubelle, et donc là les pêcheurs dès le milieu des années 90 ils ont commencé par eux-mêmes ramener leurs déchets à terre, et ils continuent, c'est un réflexe qu'ils ont pris maintenant. Et puis ensuite, de 2002 à 2008, il y a l'Institut du Milieu Aquatique qui a pris le relais avec Itsas Gasteria Ils ont poursuivi ces objectifs-là, ils ont élargi le public cible, c'est-à-dire qu'au-delà de la pêche professionnelle, ils sont partis vers la promenade, vers la plaisance, vers l'ostriculture. On a été vers Arcachon, le Verdon, etc. Faire des actions de sensibilisation auprès des futurs marins, des scolaires. Il y a aussi eu des opérations de récupération et d'envoi d'engins de pêche pour des pays en voie de développement. C'est-à-dire que nous, on a des réglementations avec des dates de péremption, même sur le matériel de sécurité, alors qu'on peut avoir du matériel qui est tout à fait en bon état et en bon état de marche. Donc, au lieu de le mettre à la benne, c'est quand même plus intéressant d'aider des pays en voie de développement, et notamment en Afrique. Et puis, sur des matériaux type filet de pêche qui étaient, là, pour le coup, totalement irrécupérables, dans un premier temps, ça a été plutôt de la revente à des traders en plastique, parce que c'est du plastique tout ça. Ensuite, de 2009 à 2014, on a Laurent Dubois, qui est un ancien collègue et malheureusement décédé, mais qui a fait vivre tout ce système-là. La région a, du jour au lendemain, arrêté le financement en disant « c'est plus notre compétence, c'est les ports ». Et mine de rien, il faut avoir une benne à terre, il faut avoir quelqu'un qui est là, qui suit le, qui distribue les poches, c'est du boulot. Laurent a fait ce travail bénévolement pendant longtemps. Et malheureusement, son départ a mis un peu un coup d'arrêt à tout ça. Et puis le manque de financement, on revient au nerf de la guerre aussi. Donc depuis 2014, on a essayé via le projet, le fonds européen, de relancer un peu une dynamique, mais c'est compliqué avec les collectivités, tout prend du temps. Michael, t'apprends rien, jamais rien n'est simple. Mais cela dit, on essaie de remettre en place un atelier expérimental de démontage des filets usagés. On a travaillé avec une start-up pour transformer ces filets usagés en granulés pour que ce soit réutilisé en plastique recyclé. On a travaillé avec le cluster de la glisse, c'est le regroupement des 180 entreprises de glisse qu'il y a entre les Landes et le 64 qui s'appelle Eurosima, pour estimer le gisement de matières recyclables qu'il y avait. Donc là, on a été au-delà des engins de pêche, ça peut être les cirés, ça peut être les gants, ça peut être tout un tas de choses. Là, on a encore des rendez-vous vendredi sur un projet de création de plateforme multi-service sur les déchets marins. L'idée, ce serait que les déchets que les pêcheurs ramènent de mer, leurs engins de pêche usagés, leur matériel usagé, leurs salopettes usagées, plus tous les déchets qui sont ramassés sur les plages, etc., qu'il y ait une plateforme dédiée à ça pour pouvoir recycler au maximum ce qui est recyclable et donc faire de l'économie circulaire sur le territoire. Dans les responsabilités environnementales, un des gros axes et un des gros enjeux aussi, c'est de réduire la consommation énergétique. C'est des moteurs thermiques. Donc il y a eu des expériences qui étaient assez concluantes avec l'huile végétale de tournesol. Il y avait deux bateaux qui étaient équipés, qui donnaient des bons résultats en termes d'économie. La problématique, c'est que la coopérative agricole qui était à laquelle ces bateaux-là achetaient l'huile végétale, ils ont trouvé notre marché plus intéressant. Et puis ça a aussi correspondu à une baisse à un moment donné du prix du carburant. Et du coup, c'est un peu tombé à l'eau. Ce qui revient maintenant dans l'air du temps, c'est l'utilisation d'hydrogène et l'enrichissement à l'hydrogène des moteurs thermiques. Donc il y a des expérimentations en cours, mais qui sont assez prometteuses. Parce qu'on voit qu'on a des meilleurs rendements du moteur, des moteurs plus propres, des baisses de consommation de gasoil de l'ordre de 20%, mais aussi des baisses de consommation d'huile et des baisses probables d'émissions de CO2, mais probables parce que c'est en cours de mesure. Donc voilà, on peut pas faire de nouveaux bateaux, je vous rappelle. Donc on essaie de faire du neuf avec du vieux. Mais en tout cas, voilà toutes les pistes de travail qui sont faites sur la motorisation en tout cas et sur... En tout cas, essayer de minimiser la consommation de carburant. Donc là, l'atelier de revalorisation des nappes de filets usagées. Donc la première des choses, c'était de proposer un nouveau service aux pêcheurs de démontage du matériel de pêche. Parce qu'en fait, ils ont ça qui dort dans des chais. Et finalement, c'est de la perte. C'est la perte économique pure parce que la nappe de filet, elle a un cycle de vie d'une fois. Par contre, les boutes, les lièges, donc les cordages, je parle technique, excusez-moi, les cordages, les lièges, etc., ça a des cycles de vie de 3 à 5 fois. Donc quand ça dort dans un hangar, tout ça, ça s'abîme, c'est pas réutilisé, et au final, à un moment donné, c'est vraiment un déchet. Alors que là, on en fait une nouvelle ressource. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer de revaloriser le plus localement possible ces nappes de filets en matière, en plastique, et de le réutiliser localement pour la fabrication d'autres produits. C'est pour ça, par exemple, qu'on a fait rentrer le cluster Ocima. Il y a possibilité de faire des lunettes, il y a possibilité de faire des tas de choses en fait avec ça. Autre type de projet qu'on a financé, dont j'étais à la soutenance de thèse avec l'université de Pau de Pays de la Dour, c'est d'essayer de réduire ces déchets organiques. C'est-à-dire que quand on sort un poisson de l'eau, on mange les muscles, mais bien souvent, il reste la tête, il reste le squelette, il reste la peau dans laquelle il y a du collagène. Dans les yeux de thon, il y a de l'acide hyaluronique. Dans les crustacés, on mange pas la carapace, mais dans la carapace, il y a de la chitine. Donc tout ça, c'est des biomolécules d'intérêt et pour des secteurs comme la cosmétique, la pharmaceutique, le médical. Et dans les algues, dans nos algues rouges, l'exploitation qui en est faite, c'est essentiellement l'agar, l'agar rose. Donc le complément alimentaire, hein, c'est un gélifiant végétal, avec une demande mondiale qui est énorme, mais dans les petites molécules qu'il y a, cette algue-là, elle aime le soleil, mais elle ne l'aime pas trop non plus. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon elle blanchit. Donc elle sécrète naturellement des protéines qui sont anti-UV. Et ça, ça nous intéresse beaucoup, parce que si on arrive à terme à faire des solutions de crème solaire, non plus avec des anti-UV synthétiques qu'on n'arrive pas à biodégrader derrière dans le milieu marin, mais avec des anti-UV naturels issus d'une algue locale, ben je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Donc voilà les pistes de travail qui sont et qui donnent des résultats assez concluants et assez innovants. Sur, par exemple, aussi les viscères de poissons. Les viscères de poissons, c'est tout bête, mais aujourd'hui, il y a des machines qui existent et qui permettent de produire du compost biologique. Donc localement, le Pays Basque est aussi connu parce que c'est une terre de bien manger, avec une agriculture biologique. Et par exemple, la valorisation de ces viscères en compost biologique pourrait servir à des parcelles d'agriculture biologique de l'intérieur. Et enfin, dernier point, et après j'arrête de vous embêter, c'est promis, c'est aussi réduire la perte d'engins et les captures accidentelles. Quand je parle de captures accidentelles, ce qui est le plus médiatisé, c'est évidemment les dauphins. Le dauphin, c'est flipper et on n'y touche pas. Donc là, c'est avec l'université de Bordeaux, on travaille sur des matériels de pêche connectés. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va avoir en fait des balises sur le filet qui vont émettre des fréquences sonores, et puis on va avoir des récepteurs sur le bateau. Et donc à tout moment, on va être en capacité de situer le filet. Et comme c'est des fréquences acoustiques et que les dauphins, pour se repérer, ils utilisent l'acoustique, eh bien on va utiliser leur fréquence pour leur dire hop hop hop, ne vous approchez pas, attention, il y a un filet. Donc l'idée, c'est de faire d'une pierre deux coups, c'est de limiter la perte d'engins de pêche, essentiellement dans les Landes. Pourquoi ? Parce que dans les Landes, on est sur du fond sableux, à pente douce, et l'hiver, avec des houles qui sont très puissantes. Donc on peut avoir par moment soit la houle, soit parfois des chalutiers malveillants qui passent au milieu et qui vous tirent le filet. Et la perte d'un filet pour un pêcheur, c'est pas un plaisir, parce qu'un filet, ça coûte cher. Donc là, on perd de l'argent sur l'engin, on perd sa pêche, et triple peine, c'est que tant que le filet est sous l'eau, il continue à pêcher. Donc, c'est pas un plaisir. Et l'idée, c'est de maximiser le fait de pouvoir récupérer ces engins de pêche. Et j'ai fini.
Stratégie de pêche durable des pêcheurs basco-hollandais. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de Nicolas Susperegui, scientifique chargé de mission au comité des pêches 64 et 40, intervention enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz le 19 juillet 2022. L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.